Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité Santé. Caroline Paré.
Pour mieux se sentir, soulager certaines douleurs, améliorer la circulation sanguine, la digestion, récupérer après le sport, favoriser la détente musculaire, gérer son stress, toutes ces indications peuvent trouver des réponses au travers des massages. On en parle aujourd'hui, tonifiant, relaxant selon les techniques, l'ambiance, mais aussi l'heure de la journée. Le massage a son propre vocabulaire où il est question d'effleurage, de modelage, de friction, de traction ou de pétrissage. Il dépend également de l'expérience de celui qui le pratique, novice ou professionnel. Connaître les zones cibles adaptées à un certain type de pression en fonction de l'effet attendu, certaines manœuvres, toutes en douceur, d'autres qui ne sont pas franchement agréables, des gestes qui engagent à la fois le praticien et la personne massée et parfois nécessitent des précautions spéciales. On ne parle pas du massage, mais bien des massages au pluriel en fonction de l'âge, de l'activité physique, de l'état de santé, techniques multiples, finalités variées que nous vous proposons d'explorer au cours de cette émission. Et avec nous en studio, les deux auteurs de ce livre illustré et très complet, une encyclopédie du massage publiée aux éditions Flammarion. Bonjour Jean-Christophe Berlin.
Bonjour.
Vous êtes masseur-kinésithérapeute à Paris, spécialisé en médecine du sport, profession que vous exercez également. Un masseur-kinésithérapeute, Nicolas Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes également ostéopathe. Tout à l'heure, nous partirons pour la Côte d'Ivoire pour un échange avec Zéphirin Guépier, masseur-kinésithérapeute à Abidjan. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique nutrition de Stéphane Besançon, nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali.
Priorité santé sur RFI.
Et un petit exercice plutôt compliqué hein, pendant cette émission, c'est quand on passe aux explications pratiques. Il s'agit d'essayer bien sûr d'être le plus explicite, le plus visuel possible pour nos auditeurs. Alors ces massages, hein, vous le soulignez dès le début de l'ouvrage, non seulement ils existent depuis des millénaires, mais on les retrouve un petit peu partout sur la planète. Question donc que je vais vous poser à tous les deux sur les origines dans le temps et dans l'espace de ces pratiques. Je sais qu'on pourra en parler pendant des heures. Je commence avec vous, Jean-Christophe Berlin. On masse depuis quand ?
Depuis les singes, si je puis dire, depuis nos cousins. Dès lors qu'on se touche, dès lors qu'on vit en société, dès lors qu'on vit en groupe, dès lors qu'on est grégaire, le toucher est une forme de massage. Le massage, c'est un toucher élaboré. Masse, en arabe, ça veut dire palper. Donc, dès lors qu'on vit en groupe et qu'on se touche, on peut considérer que c'est le début du massage. Donc, ça correspond à l'ère humaine, si on veut. Et ça s'élabore parce que, en fait, c'est l'intention qui compte. C'est-à-dire que lorsqu'une maman a un bébé dans ses bras, elle va le caresser. Mais si le bébé pleure ou s'il a mal, elle va le frotter. Et frotter un bébé, c'est le commencement du massage.
Donc, il y aura un instinct quasiment du massage ?
Oui, bien sûr, l'instinct du toucher. Dans les sociétés grégaires, ça, c'est très visible. On le voit bien chez les singes, hein. Ils se touchent, ils se tripotent, ils se grattent. Et chez nous, c'est la même chose. Chez les humains, c'est la même chose. Ça s'est élaboré comme ça. Alors, on peut dire que le massage s'est élaboré au cours des siècles, et c'est vrai que c'est venu avec la médecine. La médecine a voulu inscrire, si vous voulez, les lettres du massage. Donc on le retrouve dans l'Égypte ancienne, on le retrouve en Chine, on le retrouve dans toutes les civilisations anciennes. Et en particulier, il y a des hiéroglyphes qui montrent des massages. Donc on peut situer ça à 5000 ans avant Jésus-Christ.
Nicolas Bertrand, sur ses origines du massage, un élément apporté peut-être aussi sur des aspects plus géographiques ?
Alors on retrouve le massage effectivement sur tous les continents, c'est arrivé beaucoup plus tard en fait en Europe, on retrouve effectivement des traces en Égypte, on en retrouve en Inde bien évidemment avec le massage ayurvédique. C'est un massage au départ qui se faisait par transmission orale, beaucoup, et puis aussi c'est un massage familial, c'est-à-dire que les gens se touchent entre eux, entre les familles, effectivement on voit beaucoup les parents qui touchent les enfants, qui à leur tour finissent par apprendre le massage et finissent par masser aussi les anciens. Voilà, on voit beaucoup ça en Inde. En Europe, c'est arrivé beaucoup plus tard. On comprend pourquoi, puisque effectivement, on a eu beaucoup de freins, notamment à travers la religion. Le fait de se toucher était problématique, donc c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais ça commence beaucoup à se démocratiser. Et effectivement, cette idée de se toucher, de reprendre contact avec l'autre, est une idée qui fait son chemin de plus en plus.
Avec une question directement que nous pose Afididjou, il est en Gambie. Combien de types de massages existent-ils dans le monde? Alors, je pense que ça va être compliqué de faire la liste. En tout cas, est-ce que le massage fait partie, à proprement parler, de la médecine?
Alors, tout dépend, en fait, on va dire, du positionnement qu'on a en France. C'est assez clair, nous sommes masseurs kinésithérapeutes. Nous sommes ce qu'on appelle des paramédicaux. Donc, effectivement, on utilise le massage à des fins thérapeutiques. On a effectivement laissé la place à tout ce qui est massage bien-être à d'autres, ce qui est à mon avis une grosse erreur. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, il y a un côté médical ou tout au moins paramédical en France. C'est pas tout à fait la même chose en Europe. Il existe des écoles spécifiques de massage. Et dans d'autres pays, il y a des masseurs, des massothérapeutes. Donc voilà, mais tout ça demande quand même, si vous voulez l'utiliser d'un point de vue thérapeutique, tout ça demande une technicité, donc un apprentissage.
Tout à l'heure, quand je vous ai présenté Nicolas Bertrand, j'ai dit ostéopathe, pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce qui distingue justement un ostéopathe, on va dire, d'un masseur kinésithérapeute classique.
Alors, un masseur kinésithérapeute, dans kinésithérapie, il y a kiné, c'est le mouvement. En fait, on travaille de façon sur des zones analytiques spécifiques. Par exemple, si vous avez une fracture du bras, ben on va s'occuper de votre bras. En ostéopathie, on parle de médecine holistique, c'est-à-dire qu'on prend l'ensemble du corps. C'est-à-dire que si vous avez un problème au bras, on va aussi s'occuper de votre épaule, pourquoi pas des cervicales, regarder ce qui se passe au niveau des doigts et regarder, en fait, quelle est votre posture générale, puisqu'on on sait qu'en fait, tout traumatisme a une incidence sur le comportement général.
Tout à l'heure, on a parlé de ses origines géographiques, l'Inde, le Japon, la Thaïlande. On a aussi, bien sûr, en tête, par exemple, le hammam oriental, là, qui est plus aussi purificateur. Est-ce que certaines cultures, certaines régions du monde, Jean-Christophe Berlin, mettent davantage en avant justement ce massage, et est-ce que c'est nouveau, puisqu'on le voit maintenant même dans les rues de Paris, cette importation des techniques de massage d'un peu partout dans le monde?
Oui, il faut comprendre qu'il y a deux types de médecine. Il y a une médecine traditionnelle et une médecine moderne. La médecine moderne est plus tournée vers les médicaments et la chirurgie. La médecine traditionnelle, qui a peu de moyens finalement, intègre plus volontiers en fait les techniques manuelles. Donc on a parlé de l'ostéopathie, mais la thérapie manuelle, c'est la même chose. Et le massage rentre dans ce type de médecine. Donc on voit ça plutôt dans les pays en développement, si je puis dire, et de façon très ancienne. Et puis la médecine moderne vient se greffer là-dessus et elle intègre le massage, puisqu'en fait, comme l'a dit Nicolas, en Europe, il y a aussi de massage, mais qui viendrait plutôt d'une médecine traditionnelle et qui serait transposée dans une médecine moderne. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, des indications multiples. Hein. Maintenant, on va s'intéresser justement au type de troubles ou même d'affections qui sont justement de façon très pertinente traitées par le biais des massages. Jean-Christophe Berlin, qu'est-ce qui vous vient en tête? Le massage, ça soigne quoi particulièrement bien?
Oui, déjà, il faut se méfier un peu du terme soigner. Soigner, c'est bien dans le sens de prendre soin. Mmh. C'est comme ça qu'on...
J'ai pas dit guérir.
Oui, vous n'étiez pas loin de voilà, le dire.
Je vous soupçonne
d'avoir cette idée en tête.
Je vous assure que quand je dis soigner, je veux pas dire guérir.
Mais vous avez raison, c'est tout à fait ce qu'il faut dire. C'est-à-dire que, de manière générale, quand on s'adresse à quelqu'un qui est malade ou qui est souffrant, il faut prendre soin de lui, donc le soigner. Et espérer peut-être une amélioration ou une guérison. Donc le massage s'intègre là-dedans de façon très intéressante, si je peux dire, puisqu'en fait, il n'y a pas de meilleur moyen de prendre soin de quelqu'un que de le toucher, que de s'en approcher, de faire attention à lui et d'avoir de bonnes intentions. On insiste beaucoup là-dessus, mais ce qui compte dans le massage, c'est l'intention qu'on donne. Si vous avez envie de guérir, si vous avez envie de faire du bien, vous allez aider votre patient et vous allez l'amener à se sentir mieux. Donc prendre soin et l'intention que vous avez dans le massage, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut soigner avec le massage, puisque c'est votre question? En Europe, en France en particulier, la plus grande pratique qu'on ait du massage, c'est pour le mal de dos. C'est à peu près 70% des consultations de kinésithérapie, c'est le mal de dos. Donc c'est ce qui vient en premier. Mais il y a d'autres indications. Évidemment, moi je m'occupe de sportifs, donc vous avez toute la récupération musculaire en particulier. Vous avez la détente, vous avez les fractures, toutes sortes de choses.
Et en milieu hospitalier, il y a des kinés qui interviennent dans des secteurs très différents, y compris par exemple dans des services de soins en santé mentale. Ça bien peut sûr, arriver dans tous les services.
Bien sûr. Alors la kinésithérapie est assez large. Il faut d'ailleurs, puisque vous parliez de l'ostéopathie tout à l'heure, il faut faire le distinguo. La kinésithérapie est une formation hospitalière. C'est très différent. L'ostéopathie, c'est pas le cas. Donc, on est formé à l'hôpital et on soigne dès la première année. On est confronté à la vraie maladie, hein, aux gens qui souffrent à l'hôpital. Et effectivement, vous avez toutes sortes de spécialités. Moi-même, j'ai travaillé en réanimation, par exemple. Hein, on n'imagine pas qu'il y a de la kinésithérapie en réanimation, mais il y en a. Alors, j'ai travaillé aussi en pédiatrie. Enfin voilà. Et puis j'ai aussi travaillé en Afrique, à l'hôpital principal de Dakar. Je le dis en passant. Donc, c'est très large en fait.
Et voilà. On peut avoir aussi, bien sûr, ces grands services de réadaptation. Rééducation pour les grands accidentés. Cette question que je vous adresse maintenant, Nicolas Bertrand, c'est Benjamin qui la pose indirectement. Il vit en République démocratique du Congo. Justement, ces pathologies susceptibles d'être, lui, il emploie le terme guérir, on a bien rectifié tout à l'heure, d'être prise en charge par le massage. Qu'est-ce qui vous vient en tête?
Alors le massage, ça fait partie d'un ensemble en fait ça fait partie d'une pratique qu'on utilise dans un ensemble de soins. Donc effectivement, la prise de contact est hyper importante par l'intermédiaire du massage, puisque la plupart du temps, les gens qui ont eu un traumatisme, ont subi ce traumatisme, ont du mal quelquefois à accepter ce traumatisme. Donc le fait de reprendre contact et prendre contact directement avec ce traumatisme, c'est déjà une première chose, c'est déjà un premier acte de soins. Pour rebondir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la psychiatrie, il y a une phrase qui m'est venue tout à l'heure de Boris Dolto, qui était le mari de Françoise Dolto, qui avait l'habitude de dire que la kinésithérapie, c'était la psychanalyse du pauvre. Pourquoi? Parce que, en fait, quand les gens arrivent sur la table, ils arrivent avec leur pathologie, mais ils arrivent aussi avec la problématique qui est liée à cette pathologie. Donc, en fait, c'est la prise en charge globale. Qui est intéressante à travers le massage et à travers la kinésithérapie.
Et qui s'exprime aussi à travers ce langage du corps qui, dans un premier temps, peut être dans la retenue, le refus du contact, et qui, la personne va se laisser finalement amadouer parce qu'il y trouve aussi une part de plaisir.
Ah ben, quand les gens arrivent, quand, par exemple, pour un problème de dos, en général, ils arrivent un peu pliés. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent, ils sont penchés sur leur douleur, ils vont vers leur douleur. Et effectivement, ils vous montrent quelque chose. Donc cette démonstration fait que il y a une envie de prise en charge. Ils sont là, ils vous montrent ce qui se passe. À vous ensuite de prendre en charge. Et effectivement, le massage est une première approche très intéressante.
Donc dans ce livre que vous avez écrit en commun, un massage encyclopédie du massage, vous présentez des techniques de massage. Alors est-ce qu'il est bien prudent, Nicolas Bertrand, de s'improviser masseur?
Alors, c'est une question qui nous est souvent posée, effectivement. Est-ce qu'on s'improvise masseur, oui ou non? Est-ce qu'on s'improvise plutôt, si je devais répondre à votre question, est-ce qu'on s'improvise thérapeute? La réponse est non, évidemment. Le massage, moi je suis assez d'accord avec le fait que c'est inscrit dans nos gènes. On s'est toujours massé, donc effectivement, quand on a mal se frotter, ça fait partie du massage. Donc, il existe des tonnes de techniques de massage, des techniques qui demandent plus ou moins d'apprentissage. Mais la façon dont on a écrit ce livre, c'est justement pour appréhender de façon très 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 simple des techniques qui sont aussi simples et qui sont ni invasives, ni intrusives, ni à risque.
Même certaines assez compliquées hein, quand même. Il y a des gestes qui nécessitent une expérience certaine, Jean-Christophe Berlin.
Oui, alors évidemment, avec notre éditeur Flammarion, on a voulu être assez large. Alors on a fait une encyclopédie. L'encyclopédie, ça reprend toutes les techniques et aussi les techniques du monde. Donc il y a une démonstration des différentes techniques. Je pense que tout le monde peut avoir accès à ce type de technique. Ce qui compte, et ce qu'a dit Nicolas très justement, c'est que il faut faire attention à ce qu'on veut faire. Si on veut faire du bien, si on est là pour soulager quelqu'un, on peut tout à fait le faire. Il ne s'agit pas de s'improviser kinésithérapeute. Mais dans les techniques que nous montrons, elles sont praticables, et j'espère qu'on a été assez clair, assez didactique là-dessus. Elles sont praticables par tout le monde.
En tout cas, c'est très bien illustré, c'est très bien décrit. Et tout à l'heure, vous le disiez rapidement, j'aimerais qu'on revienne sur cette question, Jean-Christophe Berlin, que instinctivement ces mères massent leur bébé. Question de François au Cameroun, doit-on masser un bébé, un enfant? Alors je ne sais pas si on doit ou on peut, en tout cas beaucoup de gens le font. Pourquoi justement, quels sont ces bienfaits du massage sur les très jeunes enfants?
Nicolas a évoqué tout à l'heure la distance qu'il y a entre les gens en Occident. C'est sans doute lié à la religion depuis longtemps, effectivement, puisque le christianisme se défiait beaucoup du toucher. Hein, puisque vous vous souvenez que les médecins, autrefois, n'avaient même pas le droit de toucher les patients. Ils mettaient un voile entre... Enfin, moi, c'était compliqué. Donc, en Afrique, moi j'ai eu la chance de travailler en Afrique pendant quelques années. Et moi, j'ai été surpris de voir ça. Effectivement, les mamans massent instinctivement, mais c'est la même chose en Inde. Hein. Je l'ai retrouvé en Inde et en Chine. À chaque fois, c'est la même chose. Les mamans sont beaucoup plus proches de leurs enfants et pendant longtemps, puisqu'en fait, en France, qu'est-ce qui se passe? Les bébés, on sépare la maman de l'enfant à la troisième semaine, quasiment, puisqu'on les met en crèche. Enfin, c'est un non-sens. Alors qu'en Afrique, vous avez des mamans qui vont dans les chambres où tout le monde sait ça.
On a 2 mois et demi de congé, quand même.
Oui, les choses s'améliorent. Mais dans certains cas, je vous promets, enfin, vous le savez, mais il y a des mamans qui sont séparées très tôt, leurs enfants. Séparées, je dis bien, c'est une séparation, c'est même douloureux, hein. Ça ne me regarde pas, je ne fais que constater. Par contre, ce que j'ai vu en Afrique avec des mamans qui portent leurs enfants, qui les allaitent jusqu'à 2, 3, 4 ans et qui les portent dans le dos, qui vont dans les champs travailler avec eux, ça crée un contact, ça crée un lien très important qui est très différent de ce qui se passe chez nous. Et le massage fait partie de ce type de relation proche que les mamans ont avec leurs enfants. Donc bien, mais on le voit beaucoup en Afrique en particulier. Les mamans frottent leurs enfants, elles leur passent de l'huile, etc. Donc nous, on le fait pas. Par manque de temps, par manque de sans doute ça ne se fait pas.
Mais je vous dirais quand même que de plus en plus de mamans le font, parce que oui. Par exemple dans le kit de la jeune maman qu'on nous demande d'amener à l'hôpital, on demande de mettre une petite fiole de d'huile d'amande douce pour masser les bébés.
Et vous savez pourquoi elles le font?
Non.
Ben c'est grâce à nous.
Grâce à vous, entre autres. Oui, oui, oui. Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce qu'il y a des gestes à bannir? Est-ce qu'il y a des gestes qui peuvent être dangereux quand on prend pas de précautions, quand simplement on n'a pas le savoir-faire, Nicolas? La Bertrand.
Alors, il y a 2 choses auxquelles il faut faire attention, c'est l'intention et l'attention. L'intention, c'est effectivement c'est la volonté que vous allez mettre dans le geste. Et ensuite, l'attention, c'est à comment vous allez procéder pour exécuter ce geste. Effectivement, il y a des choses qu'il faut éviter. Il faut éviter d'être violent. Il faut éviter ensuite de provoquer des douleurs, faut éviter d'utiliser des techniques dont on n'est absolument pas sûr, on n'a pas de retour d'expérience, et d'autre part, faut éviter aussi certaines zones du corps qui peuvent prêter à confusion, donc éviter de solliciter des, enfin d'aller toucher des zones qui seraient pas appropriées, on va dire, notamment quand on n'a pas prévenu la personne du type de massage qu'on allait effectuer.
Une illustration, justement, quand vous dites des zones du corps, c'est quoi, par exemple?
Par exemple, toute la partie, on va dire, de laine, etc. C'est des zones qui sont pas très très appropriées. L'arrière du genou aussi, c'est pas une zone extrêmement agréable. Voilà quoi. Après, il faut se méfier aussi des zones. Il y a des zones qui sont un petit peu plus sensibles, comme les cervicales. Par exemple, éviter de faire des mouvements brusques sur les cervicales, parce qu'on voit beaucoup ça, hein, c'est dans les films, dans ce qu'on peut présenter sur le massage, même sur l'ostéopathie, la chiropraxie, on voit souvent des manipulations assez violentes. Bon, il ne faut pas s'essayer à ce genre de choses.
Et vous m'aidez, vous allez voir, petite illustration avec la scène du hammam dans le film OSS 117, le Kearny d'espion, Jean Dujardin, manipulé de manière plus que tonique, on va dire carrément musclé, par un masseur de forte stature.
Vous avez fait très bien de venir me voir ici, monsieur Bramard. D'autant que vous avez la peau sèche.
Ah bon?
Oui. Je vous conseille d'hydrater et de bien faire pénétrer.
J'aime quand on m'enduit d'huile.
Monsieur Bramard, je vous confie à des mains expertes. Le meilleur du Hamam, Suleiman Pacha. Le meilleur de tout l'Orient. Khalid. Khalid a les différentes méthodes traditionnelles du massage. Le shiatsu pour un travail sur le son nerveux et le nuatai pour les étirements.
Ah oui, c'est étonnant.
Khalid est un maître. Un malem, comme on dit ici.
C'est tonique.
Drainage lymphatique.
3 questions.
Une réponse. 2 réponses. Et 3 réponses.
Jean Dujardin qui fait craquer les articulations. Alors justement, ce craquage, c'est un peu un cliché du massage. Est-ce que c'est bon ou c'est carrément à éviter, Jean-Christophe Berlin? Je vous voyais en tout cas sourire pendant cette petite scène.
Oui, oui.
Faire craquer les articulations, c'est quoi?
Le cinéma s'est approprié ce genre de scène et c'est l'image qu'on a du masseur. Il y a aussi une scène avec Charlie Chaplin où il y a le même genre de scénario. C'est assez amusant et effectivement, ça existe. Alors ça existe. Nous-mêmes, moi j'ai eu cette expérience-là au Maroc, une une fois, on avait été avec Nicolas d'ailleurs, dans un hammam, mais on était ressorti plutôt fatigué. Donc en fait, partout où on va, on se fait masser, on essaye les techniques, et selon les régions, effectivement, c'est plus ou moins violent, et ça ne doit pas l'être. Le craquage dont vous parliez, en fait, bon là, ce qu'on voit, c'est un peu violent. Dans une articulation, vous avez, lorsqu'il y a du liquide dans une articulation, et lorsqu'il y a un mouvement de ce liquide, il y a des petites bulles qui se forment et qui viennent éclater à la surface, donc qui viennent se heurter aux parois de l'articulation et qui à ce moment-là éclatent. Et c'est le bruit qu'on entend. Donc c'est donc simplement, ça signifie simplement qu'il y a eu un mouvement. Ça c'est ce qu'on appelle le claquage, en fait un petit bruit quand on fait claquer ses doigts par exemple. Par contre, lorsque vous avez une articulation qui est abîmée, qui est grippée, si je puis dire, qui est arthrosique, le mouvement n'est plus facilité, et donc il y a effectivement un craquement là qui est différent, qui est un peu comme une porte qui grince. Ce sont deux signes différents. Donc dans un cas c'est grave, c'est de l'arthrose. Dans un autre cas, le claquement qu'on a lors d'une manipulation, c'est juste qu'il y a eu un mouvement dans l'articulation et ça n'a pas d'autre signification.
Nicolas Bertrand, si un massage est douloureux, est-ce qu'il faut s'inquiéter?
Alors, ça dépend sur quelle zone on se situe. Si effectivement vous massez le ventre et que vous commencez à palper sur un ventre dur, tendu et douloureux, oui, là, il faut s'inquiéter. Maintenant, si vous avez une tension musculaire et qu'effectivement, comme je l'expliquais précédemment, vous appuyez sur une zone très ponctiforme et que ça provoque une douleur, non, il faut pas s'inquiéter. En revanche, il faut toujours savoir ce qui se passe sous ses doigts. Et effectivement, le fait de masser souvent, beaucoup, avec application, permet d'obtenir un certain nombre de références. Et c'est ces références qui permettent de savoir si le massage est finalement approprié ou pas.
Alors, une question tout de suite, question d'une auditrice de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
En ligne de Brazza, du Congo Brazzaville, c'est Enacha qui est avec nous. Bonjour Enacha.
Bonjour Caroline, bonjour docteur.
Bonjour.
Donc deux kinés, rien que ça pour vous répondre Enacha. On écoute tout de suite votre question, allez-y.
Bon, ma première question c'est de savoir si le stress peut occasionner des douleurs au niveau du cou et de la tête. Parce que ce sont des douleurs très récurrentes que je ressens souvent en fin de journée après le boulot. Et je voudrais savoir si le stress est à l'origine de ça. Et ma deuxième question était de savoir si il y a une possibilité, bon, une méthode pour moi de massage que je peux appliquer à la maison sans pourtant consulter un spécialiste et que je pourrais faire constamment pour essayer de me soulager de ces douleurs-là.
Alors, deux questions, je me tourne donc vers les deux spécialistes. Jean-Christophe Berlin, cette première question d'Enacha. Après une journée de travail, pas mal de stress, des douleurs au niveau du cou, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, c'est assez fréquent, il faudrait savoir quel type de travail elle fait, mais j'imagine que c'est, disons que si c'est un travail de bureau, c'est assez fréquent d'avoir mal au niveau du cou, puisqu'en fait la position de la tête face à un écran, par exemple, ce qui est assez fréquent comme type de travail, est immobile, c'est-à-dire qu'on garde la tête sans bouger avec le cou dans la même position pendant un long moment.
Je vais justement poser la question à Enacha. Enacha, vous faites quoi comme travail?
Je suis secrétaire de direction.
Eh ben, vous avez vu juste, hein.
J'avais
vous,
vu
vous
juste, avez juste. Et donc, c'est bien ça le problème. Alors, il y a un problème de question de prophylaxie, c'est-à-dire de hauteur d'écran. C'est-à-dire que si l'écran est trop bas ou trop haut ou mal positionné, en fait, il faut qu'il soit à hauteur des yeux. Ça fatigue un peu moins. Mais le fait d'avoir surtout une attention longue sur un écran sans bouger la tête, ça fait que les muscles, en fait, se rigidifient tout simplement. Et qu'en fin de journée, la colonne vertébrale qui est immobile, il faut pas l'oublier, elle doit bouger. Eh bien, elle s'est rigidifiée toute la journée. Donc, c'est normal qu'en fin de journée, vous ayez ce type de douleur. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà, dans la journée, il faut bouger son cou. Même si on n'a pas envie de le faire, il faut bouger toutes les quarts d'heure, toutes les demi-heures. Vous faites des mouvements de circumduction, de je sais pas si on boit, mais en tout cas, je le dis.
De tourner, de faire pivoter la tête autour du cou de gauche à droite, par exemple.
Exactement. D'amener donc, en fait, le menton à l'épaule, le menton au sternum, le menton au ciel. Ce type de mouvement permet de mobiliser la colonne vertébrale et de solliciter les muscles de façon à ce qu'ils ne soient pas dans une position rigide toute la journée. Ça, c'est une première des choses. C'est une façon d'éviter d'avoir mal. Ensuite, est-ce qu'on peut se masser? Parce que c'est ça la question. Mais je vais laisser parler Nicolas, puisqu'il faut qu'il dise quelque chose.
Non, mais Nicolas Bertrand. Alors, merci, c'est confraternel, hein. Parce que sinon, il ferait l'émission tout seul. Nicolas Bertrand, qu'est-ce que vous pouvez dire justement en termes de, on veut dire si on veut se soulager, sans faire forcément appel à un professionnel?
Oui, alors, on peut utiliser ce qu'on appelle des automassages, c'est-à-dire se masser soi-même. Effectivement, comme le disait si justement Jean-Christophe Perlin, je lui renvoie l'appareil, vous avez vu.
C'est gentil. Bien.
On peut, effectivement, le fait d'être devant un écran peut provoquer des douleurs, notamment au niveau de la zone occipitale. L'occiput, c'est l'os qui est derrière la tête, juste à la racine du cou. Et en fait, cette zone est en relation avec les yeux, parce que en plus de cette fatigue musculaire, il peut y avoir une fatigue oculaire. Et cette fatigue oculaire peut entraîner, en fait, une fatigue musculaire. Donc, comment on fait? On prend son index et puis son majeur, vous allez le faire avec moi si vous voulez, et vous allez mettre vos deux doigts à l'arrière en fait de cette petite zone là occipitale, et vous allez vous masser en faisant des petits cercles, des petits ronds tranquillement sur cette zone, et vous allez sentir qu'au départ c'est très douloureux, très sensible, et progressivement en fait la tension va s'évacuer, diminuer.
Didier Bleu, le technicien, allez, on masse l'arrière de la tête, Didier, voilà. On y va.
Ensuite, il y a des muscles qui vont du cou jusqu'à l'épaule, puisque en fait cette tension musculaire, on peut la retrouver jusqu'au niveau des épaules. Et là, pareil, vous pouvez travailler sur ce qu'on appelle le trapèze. Le trapèze, c'est le gros muscle là qui va du cou jusqu'à l'épaule, qui est au-dessus de l'épaule. Et là, pareil, vous pouvez vous automasser, alors soit avec les doigts, soit même en utilisant une balle et en frottant en fait sur une zone spécifique que vous allez facilement trouver, qui est une zone très sensible en fait à la palpation et qui est douloureuse. Et là, pareil, vous allez pouvoir relâcher cette zone en massant tout doucement, en faisant des petits mouvements circulaires.
Et on peut dire véritablement, Nicolas Bertrand, qu'il y a des zones qui, on va dire, polarisent la tension. Quand on est stressé, on va dire qu'il y a des zones qui prennent plus que d'autres, et particulièrement ce haut des épaules. Souvent, quand on est un petit peu à bout, on a la chance de se faire masser et les personnes vous touchent et disent « là, on sent la tension quasiment sous les doigts ».
Ben, vous connaissez l'expression « en avoir plein le dos ». Voilà, effectivement, les tensions se focalisent sur certaines zones du corps, notamment sur ces zones-là, on appelle ça des zones gâchettes, des zones des trigger points, encore une fois, qui en fait focalise toute cette tension.
Voilà, Inacha, pour ces réponses, on espère qu'on a bien répondu à vos interrogations. Donc les deux réponses étaient oui, le stress suite au travail, c'est oui, et se masser soi-même, c'est oui également. Excellente journée à Brazza. On poursuit notre échange, et vous insistez sur d'autres points dans ce livre, au-delà de tout le vocabulaire qui peut même parfois prêter à sourire, hein, parce que je vous cite l'essorage du pied, le ponçage des fessiers, le pompage du foie ou le tire-bouchon des doigts. On a même l'impression que c'est inventé. Il y a aussi tout ce qui est du ressort de l'atmosphère, le lieu du massage, l'horaire du massage et le produit du massage qui veut réagir sur ce contexte, Nicolas Bertrand.
Alors bon, effectivement, pour masser, il faut être en condition pour être bien massé. Donc en fait, il faut créer une atmosphère pour être bien massé. Cette atmosphère, c'est déjà être dans un endroit calme, c'est couper son téléphone portable, c'est d'être dans une zone suffisamment chauffée pour ne pas avoir froid, parce que effectivement on a tendance à avoir froid après un massage. Jean-Christophe nous expliquera certainement pourquoi après, c'est un spécialiste de ce genre de problème. Et ensuite, effectivement, l'installation est primordiale, c'est-à-dire être bien installé sur un matelas confortable, pas trop souple mais pas trop dur non plus. Voilà, il faut créer des conditions optimales pour se faire masser. C'est un moment privilégié, c'est un moment de détente, c'est un moment de partage. Il faut se mettre en condition.
Alors, sur cette question de la température corporelle, Jean-Christophe Perlin,
La thermorégulation se fait avec des contractions musculaires. Quand il fait froid, vous frissonnez. Les muscles se contractent et élèvent de cette façon la température musculaire. Lorsqu'on vous masse, les muscles se relâchent. Donc, c'est l'effet inverse. Donc, la température, on sait qu'après un massage bien mené, la température corporelle diminue de quelques degrés.
Comme ce qui se passe aussi quand on dort.
Et oui, exactement, c'est la même chose quand on dort, puisqu'en fait les muscles devraient, c'est pas toujours le cas, mais devraient se relâcher, et donc le matin, c'est pour ça qu'on est couvert la nuit, hein, et le matin on peut avoir froid, et donc après un massage on peut avoir froid, c'est pour ça qu'il faut être dans des, par exemple dans le shiatsu, le massage se fait habiller, c'est-à-dire qu'on on couvre les gens, et on masse par-dessus les couvertures, de façon à ce qu'ils soient vraiment au chaud, et que ça facilite le relâchement musculaire, et ça permet aussi qu'avec le relâchement musculaire, les gens n'aient pas froid.
Alors, il y a des massages relaxants, on l'a compris, il y a des massages tonique, ça va être quoi l'indication de l'un par rapport à l'autre?
Moi, dans ma pratique, moi, je m'occupe de sportifs. Dans ma pratique, le massage tonifiant, ça permet de préparer à l'effort. C'est-à-dire que c'est l'effet inverse. On cherche plus un relâchement musculaire, on va chercher plutôt à mettre le muscle en action. Et pour qu'il soit en action, il faut qu'il soit irrigué. Il faut qu'il y ait du sang à l'intérieur. Si vous n'avez pas de sang dans le muscle, le sang, c'est comme une éponge. Une éponge qui est sèche, elle a tendance à se déchirer. Une éponge qui est humide, qui est pleine de liquide, elle devient élastique. C'est la même chose pour le muscle. Le muscle a besoin, avant l'effort, d'être bien irrigué. Donc il faut amener du sang dans le muscle. Donc le massage tonifiant, c'est un massage plus rapide déjà dans le rythme, plus profond, plus secouant si je puis dire, et qui a tendance donc à amener, c'est pour ça que le muscle rougit, on le voit sous la peau, hein, vous avez du sang qui vient, et c'est ce qui permet de le mettre le muscle en bonne condition et permet un effort immédiat.
Vous restez avec nous, on va tout de suite partir pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous, retrouvez Zéphirin Guipier, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes ma sœur kinésithérapeute à Abidjan. Alors vous venez très certainement d'écouter nos échanges. Dans votre cas, quels sont les troubles les plus fréquents pour lesquels vos patients viennent en consultation, docteur Guipier?
Les pathologies pour lesquelles, les troubles pour lesquels nos patients viennent en consultation, sont les hémiplégies post-AVC, le mal des dos, donc tout ce qui est cervicalgie, les lombosciatiques, les lombalgies, les troubles orthopédiques. Tout ça indique la prise en charge en kinésithérapie, les traumatismes des membres aussi.
Et les patients viennent d'eux-mêmes ou ça passe par l'intermédiaire d'un médecin référent?
Dans beaucoup des cas, on a des médecins référents, donc les neurologues, les rhumatologues, les neurochirurgiens. Mais quelquefois, on a des patients qui viennent directement dans nos cabinets, dans nos services publics pour solliciter des soins de kinésithérapie. Bon, mais les kinés les renvoient toujours chez des médecins, pour commencer par le diagnostic médical.
Est-ce que ça veut dire que, d'après vous, ces personnes sont de plus en plus au courant de l'existence de votre profession, même s'il faut le souligner, hein, il n'y a pas énormément, en tout cas pas suffisamment, de kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire, Zéphirin Guipier?
Oui, il n'y a pas beaucoup de kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire. En 2011, on était 25 kinésithérapeutes. Avec l'instauration de l'enseignement de la kinésithérapie en Côte d'Ivoire en septembre 2008, le nombre est passé de 25 à 150, mais pour un pays comme la Côte d'Ivoire, ça ne suffit pas toujours. Mais avec les sensibilisations qui sont faites par les différents groupements professionnels des kinésithérapeutes en Côte d'Ivoire, l'Association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes, le syndicat national des masseurs kinésithérapeutes du Côte d'Ivoire, les gens sont en train d'être au courant de notre profession petit à petit. Et c'est bien. Cette dernière décennie.
Le massage par des praticiens professionnels, mais on le soulignait tout à l'heure avec nos deux invités ici en studio, dans beaucoup de cultures, le massage, ça fait partie de la vie, ça fait partie du quotidien, y compris de certains secteurs de la médecine traditionnelle. Est-ce que c'est le cas dans ce que vous constatez également, par exemple, ces massages mère-enfant, hein, par exemple, ou bien certains tradis qui vont recourir au massage, par exemple, en cas de certaines douleurs, en cas de certains problèmes de santé?
Oui, je pense que les massages font partie des techniques de soulagement des douleurs, des techniques thérapeutiques. Je peux vous avouer que quelques décennies en arrière, moi-même, j'ai bénéficié des techniques de massage pour des traumatismes, pour des légers traumatismes à l'époque.
Et c'était chez qui? Voilà. Vous alliez consulter qui dans ce cas-là?
des personnes initiées. Il y a des régions chez nous en Côte d'Ivoire où des gens sont initiés pour faire des massages avec, par exemple, des régies, des bananes, des bananiers. Mmh. Voilà, avec des décoctions pour faire des techniques de massage traditionnelles. Parce que là, on n'avait pas beaucoup de services de traumatologie à l'intérieur de la Côte d'Ivoire.
Et justement, donc, quand on recourt à ces spécialistes-là du terrain, hein, on va dire du terroir, on leur donnait quel nom à ces praticiens ?
Bon, moi, dans ma région, par exemple, on les appelait les Bassi, mmh. donc les masseurs traditionnels. Mmh. Voilà, donc il y a les praticiens aussi à Abidjan, tout comme à l'intérieur du pays, qui s'essayaient par exemple dans la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur, donc les fractures, les traumatismes.
Et est-ce que vous voyez des points communs justement entre ces soins qu'on pratiquait quand vous étiez plus jeune, on va dire en brousse, et aujourd'hui, ce que vous prodiguez à Abidjan après avoir suivi un enseignement professionnel ?
J'ai été très ravi de retrouver des techniques traditionnelles qui se pratiquaient sur moi ou sur d'autres personnes quand j'étais plus jeune. Donc dans la formation des kinésithérapies à l'étranger, j'ai été très content parce que je me disais que nos parents faisaient des choses dont ils ne connaissaient pas la scientificité. Mais aujourd'hui, ce sont des méthodes, je vais dire, qui sont devenues modernes avec un enseignement, l'anatomie à la base, connaître le corps humain, toutes les techniques, l'aspect physiologique, j'ai été très très content. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a maintenu dans la kiné. Parce que pour aller faire la kiné, je me suis dit, si c'est pour aller masser, n'ai pas trop réfléchi, je n'y vais pas. Mais quand j'ai vu le programme des kinésithérapies, qui était proche un peu de certains modules des facultés de médecine, moi j'ai été très émerveillé. Mais j'ai été beaucoup plus épaté par vraiment le rapprochement entre cette technique traditionnelle dont j'avais bénéficié et l'aspect scientifique des massages et de la kiné.
Un savoir-faire donc à ne pas oublier. Est-ce que vous avez un message à faire passer, Zéphirin Guépier, parce qu'on a un petit peu dressé un portrait idyllique de cette spécialité chez vous en Côte d'Ivoire, mais quand même il y a la question de la prise en charge, hein, ça pose problème. Ça coûte cher hein, d'être pris en charge en Côte d'Ivoire par un kiné.
Oui, ça coûte cher. Les soins de kinésithérapie partent de 10 000 francs, 25 000 francs. C'est pas fait pour toutes les bourses. Surtout quand il s'agira de faire des séances de kinésithérapie à une fréquence de 3 à 4 séances par semaine. C'est pas donné à tout le monde. Et malheureusement, de nos jours, ces soins sont sélectifs. C'est souvent réservé à une catégorie de personnes vu le manque de moyens. Mais nous pensons que la kinésithérapie, comme je l'ai dit toujours, a sa place dans la chaîne des soins. Et nul ne devrait penser que le massage devait être pris comme un luxe mm-hmm. ou bien devrait être réservé à une classe, à une catégorie de personnes.
Merci.
Un rôle, voilà. Merci.
Merci infiniment hein, pour ce message que vous avez fait passer. Zéphirin Guipier, masseur kinésithérapeute à Abidjan.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
On arrive à la dernière partie de notre échange et on va redonner la parole à un auditeur. C'est un auditeur qui vient de nous appeler tout juste du Cameroun, de Yaoundé. C'est Alexis. Ce sera la conclusion de cette émission consacrée au massage avec nos deux spécialistes en direct aujourd'hui en studio, Jean-Christophe Berlin, Nicolas Bertrand. On prend Alexis en ligne. Bonjour Alexis.
Bonjour madame.
On écoute votre question. On vous donne tout de suite la parole. Allez-y.
Oui. Merci. Ma question, c'est que en fait, je sentais très mal au niveau du cou et du dos. Je suis allé consulter et après, on m'a dit que je souffrais d'une trapézalgie.
Mm-hmm. Des douleurs au trapèze.
Oui.
Oui.
Et avant même ça, j'avais aussi la cervicalite. Donc, j'avais mal toujours au niveau du cou et du dos.
Mm-hmm.
Donc, on m'a prescrit 20 séances de massage chez le kiné à raison de 2 par semaine. Et bah, mon souci, c'est lorsque je sors de la séance de massage chez le kiné, en fait, je me sens relaxé, je me sens bien. Mais pourvu que je passe une journée au travail, le soir, le lendemain, je ressens des mêmes douleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que je puisse faire que ces massages-là?
Donc cette question sur ces douleurs récurrentes d'Alexis, malgré malgré donc ces séances de kinésithérapie. Jean-Christophe Berlin, difficile, bien sûr, pas de consultation à distance, mais qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Quel âge a ce monsieur ?
Alexis, vous avez quel âge ?
37 ans.
Très bien. Écoutez, effectivement, vos douleurs ont l'air liées au travail. Je ne sais pas quel type de travail vous faites, mais vous dites que vous avez mal en sortant du travail. Quel type de travail ?
Je suis chauffeur.
Chauffeur, poids lourd ou chauffeur type taxi ?
Non, véhicule ordinaire.
Ordinaire, ok.
Alors, il faut savoir que les chauffeurs, que ce soit les chauffeurs de taxi ou chauffeurs poids lourd, sont très exposés effectivement au mal de dos, hein, puisque c'est une position immobile avec des vibrations de la voiture donc à longueur de journée. Donc c'est pas étonnant qu'il ait mal. Ensuite, le fait que le massage le soulage, ça veut dire que le massage est efficace sur les muscles, hein, puisque c'est pour ça qu'il a un soulagement immédiat. Par contre, il est très vraisemblable qu'il y ait un problème ostéo-articulaire, c'est-à-dire plus profond, hein, au niveau des vertèbres. Et là, il faut aussi associer d'autres techniques, alors des techniques peut-être de manipulation, mais aussi des techniques de mouvement, de kinésithérapie, qui aideront en fait et qui soulageront ces douleurs. Le massage n'est pas suffisant dans ce genre de cas, et il faut aussi beaucoup penser à la prophylaxie, c'est-à-dire comment éviter les douleurs, c'est-à-dire sa position dans la voiture, peut-être porter une Minerve quand il a mal, enfin il y a toutes sortes de solutions, et c'est normal que les massages ne soient pas suffisants, il faut aller un peu plus loin dans l'investigation et dans le traitement.
Auprès d'un kinésithérapeute, trouver ses réponses.
Bien sûr.
Donc retourner consulter pour savoir est-ce qu'il y a besoin, par exemple, de passer certains examens ?
Oui, bien, si ça se prolonge et si les douleurs sont suffisamment présentes, on peut passer une radio, ce qui est l'examen le plus simple, en fait, pour voir s'il n'y a pas de l'arthrose, et ce qui expliquerait en particulier un certain nombre de douleurs.
Est-ce que vous prenez des précautions particulières quand vous conduisez, Alexis, pour vous soulager, puisque comme ça, après toute une journée derrière le volant, on sent une grande tension. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous avez par exemple un siège surélevé ? Est-ce que vous prenez des pauses ? Est-ce que vous faites des rotations de la tête qu'on décrivait tout à l'heure avec nos invités dans l'émission ?
Déjà, j'adopte la position normale qu'on doit adopter au volant.
Ah si, oui, ça c'est logique, oui.
Voilà. Et du coup, si j'ai des longs parcours à faire, il y a des moments où je prends des pauses en chemin. Mm-hmm. Bon, si c'est pas court ou si c'est pas long, je peux le faire une fois. Et voilà. Donc, je ne fais rien qui soit comme une mauvaise position au niveau du volant.
Jean-Christophe Berlin.
Oui, juste donner quelques conseils. Bon, en dehors de traitement que vous pouvez faire avec un kinésithérapeute ou un rhumatologue, si éventuellement ça ne se guérit pas. Vous pouvez dans votre voiture, il y a des petits exercices qu'on peut faire en particulier avec l'appui-tête, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'appui-tête, il ne faut pas que la tête soit toujours en avant. Donc vous pouvez enfoncer la tête dans l'appui-tête par moment, donc faire des contractions musculaires associées à des relâchements, c'est-à-dire que vous contractez d'abord et puis vous relâchez ensuite. Ce qui fait que le muscle, en fait, au lieu d'être dans une position statique, immobile, le muscle va se contracter et se relâcher et il va donc réagir différemment. Donc appuyer sa tête contre l'appui-tête pendant quelques secondes, puis relâcher, etc. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, si vous avez un appui-tête.
Voilà pour ces conseils. On vous souhaite une très très bonne journée à Yaoundé, Alexis. On arrive à la fin pratiquement de notre échange. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est pas essentiel, c'est pas vraiment une question de santé, mais ça compte quand même. Ce sont les vertus esthétiques des massages pour notamment la qualité de la peau par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Nicolas Bertrand ?
Alors effectivement, depuis quelques années, on a vu de façon un peu publicitaire, marketing, apparaître la notion de massage et esthétique. Alors effectivement, le massage a cette propriété d'activer en fait des petites cellules qui sont au niveau cutané, toutes les petites cellules élastiques en fait qui donnent la qualité de la peau. Ça permet d'améliorer d'autre part les échanges qu'il y a entre la peau et le tissu qui est sous-cutané, et donc du coup d'améliorer en fait toute cette micro-circulation au niveau de la peau, donc d'améliorer effectivement l'aspect esthétique de la peau. Des études assez récentes ont montré que ça avait une incidence aussi sur tout ce qui est cellulite. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de masser a une action sur cette petite cellule graisseuse qui cloisonne la peau. Pour vous donner une idée hein, de ce que c'est que la cellulite, c'est comme si vous aviez une petite cellule graisseuse qui, en fait, était enfermée dans un studio. Et là, ça permet d'éliminer assez rapidement, en fait, par l'intermédiaire du massage, ce dispositif qui est le fait de grossissement de la cellule.
On vous remercie tous les deux. Hein. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je renvoie donc à votre ouvrage donc co-signé par vous, Jean-Christophe Berlin et Nicolas Bertrand, très complète encyclopédie du massage publiée aux éditions Flammarion. Au revoir.
Merci, au revoir.
Nous parlons nutrition et santé tout de suite dans Priorité Santé avec vous, Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. Alors aujourd'hui, question sur le grignotage. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour la santé? Et on va commencer, Stéphane, par une petite définition.
Il faut tout d'abord rappeler que les différentes recommandations internationales nutritionnelles proposent de fractionner la journée, j'allais dire, en trois prises alimentaires, donc le repas du matin, le repas du midi et le repas du soir. Donc c'est cette répartition qui va permettre à la fois de fournir l'énergie au corps et qu'il puisse avoir tous les nutriments dont il a besoin. Et ces standards recommandent ça afin d'éviter au maximum les grignotages. Et du coup, les grignotages, c'est quoi? Ben, ça va être des prises alimentaires un peu tout au long de la journée, en dehors de ces repas, et surtout, ce qui est important, qui vont pas être liés à une faim. Ça va plus être lié un peu à l'état, j'allais dire, émotionnel de la personne. Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle est fatiguée, angoissée? Et elle va manger un peu en compensation. Et c'est ce type de grignotage qui va être considéré, ou enfin, qui est considéré d'ailleurs comme mauvais pour la santé.
Alors justement, pourquoi c'est jugé mauvais pour la santé?
Alors, c'est pas le grignotage en lui-même, on va dire, c'est plutôt les aliments qui sont grignotés, parce que bah, du coup, ça va être beaucoup d'aliments qu'on appelle de mauvaise qualité nutritionnelle, qui vont être assez pauvres en vitamines, minéraux et surtout très riches en calories. Donc ça va faire que si on grignote beaucoup, on va avoir un apport très riche en sel, en sucre, en graisse et en calories excédentaires. C'est ce qui peut conduire, si on en mange vraiment trop, à avoir des problèmes de surpoids, d'obésité, qui vont être des facteurs de risque de différentes maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer et surtout le diabète.
Alors, est-ce que vous pouvez nous citer justement un exemple pour qu'on puisse se faire une idée précise?
Alors, on peut prendre quelques exemples. Toutes les barres chocolatées ou autres barres, ça peut être aussi les canettes de soda. Ou alors, ça va être les aliments, ce qu'on appelle industriels, ou alors de manière plus traditionnelle, entre guillemets. Ce qui se fait beaucoup, par exemple, en Afrique, c'est de grignoter des arachides, des poignées d'arachides. Bah, donc, si on prend, si on revient à cette poignée d'arachides, ou si on prend une barre classique, on va être à peu près à 200 kilocalories pour un seul apport. Donc quand on sait que pour une femme, on recommande à peu près 2400 kilocalories par jour, pour un homme 2700, c'est pratiquement 10% de l'apport journalier dans une toute petite, parce qu'une poignée d'arachides, c'est vraiment tout petit. Et toutes les études montrent qu'en fait, on est pratiquement à 25% d'apport excédentaire par les grignotages, parce qu'il n'y en a pas qu'un dans la journée, il y en a plusieurs. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très important à prendre en compte. Et si on le regarde sous un autre angle, là c'est encore plus stupéfiant, c'est que beaucoup de gens vont passer beaucoup d'énergie pour faire de l'activité physique, soit pour réguler, soit pour perdre du poids. On sait aujourd'hui que quand on marche, par exemple, 25 pas, ça fait perdre 1 kilocalorie. Donc, pour perdre des 200 kilocalories, il va falloir marcher quasiment 45 minutes. Donc, quelqu'un qui va s'embêter à marcher 45 minutes, qui va se dire, chouette, j'ai fait un bon effort physique, et ben, juste en mangeant une poignée d'arachides, en buvant une canette de soda ou en mangeant une barre, tout cet effort-là est annulé. Donc, il faut bien prendre en compte que c'est vraiment, vraiment des grignotages qui sont très néfastes pour le poids et pour la santé.
Alors, il faut faire attention. Et puis, attention particulière quand on parle de l'alimentation des enfants et des grignotages des enfants.
Ah oui, ça c'est très important à deux temps, on va dire. On va séparer les tout petits. Les tout petits, bah, tout d'abord parce qu'il leur faut une alimentation équilibrée, la meilleure possible pour leur développement, leur croissance. Et aussi parce que, bah, c'est toujours la phrase, c'est que des enfants qui sont bien éduqués nutritionnellement petits, eh ben, vont faire des adultes qui auront des meilleures habitudes. Donc, il y a le côté éducatif aussi. Et l'autre temps très très important où là, il y a une vigilance à avoir, c'est l'adolescence, parce qu'on sait que c'est le moment où l'alimentation hors domicile, où il y a une forme de rébellion, etc., qui se met en place, et c'est là souvent que des mauvais comportements alimentaires arrivent. Donc là, il y a une vraie vigilance éducative à avoir.
Alors, pour conclure, peut-être quelques recommandations?
Bah, tout simplement, déjà la première, c'est qu'il faut éviter de grignoter au maximum des aliments qui vont amener un apport calorique excédentaire. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il faut pas non plus confondre grignotage, collation, parce qu'il peut y avoir des collations utiles. Et on verra dans une prochaine chronique la différence entre ces collations et ce grignotage, pour qu'on puisse voir aussi les choses qui peuvent être utiles, les choses qui sont pas utiles. Donc la recommandation, c'est tous ces aliments ultra transformés ou des choses très caloriques, il faut l'éviter absolument en grignotage, prendre des bons repas et revenir à une alimentation très équilibrée.
Merci beaucoup Stéphane Besançon. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako au Mali. À bientôt dans Priorité Santé. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, prépare et réalise votre émission. À Cétoussa Maquet, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Demain, comme jusqu'à la fin du mois d'août, nous poursuivons notre cycle de rediffusion et vous pourrez réentendre l'émission consacrée à l'AVC et au handicap, séquelles et rééducation après un accident vasculaire cérébral. Restez à l'écoute de RFI et surtout, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et pensez au masque dans les lieux fermés ou en cas de forte affluence.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Sounou Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sounou Assurance. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.